France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Souleymane Bachir Diagne, pensée l'universel, comment les artistes dialoguent-ils à travers le temps, à travers les continents, à travers les civilisations, les cultures, et en quoi un musée peut-il être porteur de ce dialogue? Qui sont les universels du Louvre? Étonnantes, ces deux femmes avec leur enfant, si éloignées et si proches, c'est un voyage entre les cultures, les civilisations, dans la galerie des cinq continents au musée du Louvre à Paris.
Le palais du Louvre.
Il est pas, je vous prie.
Allô,
monsieur,
je vous écoute.
Oui, allô. Les antiquités orientales.
Allô, le poste, monsieur.
Je pense qu'il y a dû y avoir une erreur.
Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Ça, il faut voir avec le directeur du Louvre, madame. Je vous communique son numéro. Hein. Alors, vous allez appeler
le Louvre
40 20 50 10. Et c'est monsieur Laclotte Michel, le directeur du musée du Louvre.
Chef de fabrication de la.
L'argent occupé le poste. Vous patientez.
De TE.
Vous pouvez pas me dire ce qu'il faut.
Je vous en prie, à vous, madame.
Voilà, c'est un extrait du film La Ville Louvre, le sublime film de Nicolas Philibert en 1988. Nous étions au standard du Louvre, donc une histoire de conversation et de dialogue par téléphone. Souleymane Bachir Diagne, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir dans le cours de l'histoire. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Columbia. Vous faites paraître les universels du Louvre. Vous pouvez nous expliquer comment est née cette aventure, cette réflexion autour de ces universels?
Alors, ce livre est le produit des cinq grandes conférences que j'ai données au Louvre, à l'auditorium du Louvre, l'année dernière, en 2024 donc, puisque j'étais titulaire de la chaire du Louvre pour cette année-là. Chaque année, le Louvre invite un auteur à donner une série de conférences avec l'accord suivant. Faire de ces conférences un livre pour l'année qui suit. Donc voilà, c'était l'engagement que j'avais pris. J'ai donc donné une série de 5 conférences au Louvre au mois de novembre 2024. J'ai eu un public absolument magnifique qui est venu assister à ces conférences. Il m'est arrivé de recueillir des avis de ce public, justement, et j'ai essayé de ramasser tout cela dans ce livre qui est maintenant paru en coédition entre Albin Michel et la chaire du Louvre, sur les universels du Louvre. Alors, l'histoire de cette invitation qui m'a été adressée à être titulaire de la chaire du Louvre, c'est un peu l'histoire du travail qui a été le mien sur l'universel, précisément. Depuis 2 ou 3 livres, je réfléchis à la question de l'universel. J'essaye d'illustrer une position qui consiste à dire que nous sommes à la fin d'un certain universalisme qui se confondait peut-être avec le colonialisme européen, mais qu'il ne fallait pas pour autant abandonner l'idée d'universel. Voilà ce que j'avais exprimé dans un certain nombre d'ouvrages, de réflexions qui étaient les miennes. Et c'est dans ce cadre-là que la direction du Louvre m'a invité à occuper la chaire, parce que la direction du Louvre elle-même mettait en chantier ce que Laurence Descartes appelait la vocation universelle du Louvre. Voilà donc la rencontre qui s'est effectuée entre l'affirmation par le Louvre sous sa nouvelle direction de sa vocation universelle et mes propres explorations d'un universel pour notre temps. Voilà à la fois l'origine circonstancielle, chaire du Louvre, et l'origine plus proprement philosophique, réflexion sur l'universel, de ce livre.
Parce que, Souleymane Bachir Diagne, vous êtes philosophe, vous n'êtes pas historien de l'art, quoique quand on fait de la philosophie, c'est un art également. Il y a cette approche par le passé aussi, on n'est pas historien quand on est philosophe, mais faire de la philosophie sans l'histoire, ça ne veut rien dire. Et donc, vous approchez ici cette question d'universel qui offre tout un champ historique et de manière particulièrement concret quand il s'agit de réfléchir aux œuvres elles-mêmes, c'est-à-dire à leur parcours, à leur exposition et à leur relation. Et c'est ça qui est extrêmement fort. On peut rappeler déjà que le musée du Louvre a toujours eu dans ses collections des œuvres qui venaient de tous les continents.
Ah oui, tout à fait. Le Louvre s'est ouvert, on le sait, aux arts des quatre autres continents, donc autres que l'Europe, sur décision présidentielle. C'était la décision du président Jacques Chirac au début de ce millénaire demander au Louvre d'accueillir ce qui était alors le pavillon des sessions. Des œuvres d'Océanie, du Pacifique, de l'Amérique précolombienne, de l'Afrique. Mais en effet, ça n'était pas la première fois que des œuvres non européennes se retrouvaient au musée du Louvre. Il y a en particulier aujourd'hui dans la galerie des cinq continents une magnifique figurine, un esprit. Qui est représenté, qui était la propriété personnelle de celui qui a été le premier directeur du Louvre, vivant de nom.
Ah oui, c'est lui le vivant de nom de la Révolution française,
c'est le vivant
de Napoléon, etc.
Absolument, et c'est Napoléon qui lui a dit vous allez diriger ce musée du Louvre, et il possédait cet objet. Dont il pensait d'ailleurs. Alors cet objet était parvenu là, on ne sait trop comment. Des marchands, des navigateurs les avaient probablement amenés là. Et d'abord, on pensait que c'était un objet mexicain. Il a été considéré pendant très longtemps comme mexicain jusqu'à ce qu'on découvre qu'il était en fait de l'île de Saint-Domingue, de Haïti. Donc, il y a eu ces objets-là. Mais en effet, il a bien fallu attendre 2000... pour voir une véritable louvrisation. Alors je me suis permis ce néologisme qui est le titre de mon premier chapitre, une louvrisation. Alors j'utilise le mot louvrisation comme on parle de panthéonisation, comme si ces objets, en devenant des objets habitant le musée du Louvre, accéder en quelque sorte à un statut, au statut qui est le leur aujourd'hui dans ce magnifique musée qu'on appelle à juste titre le plus beau musée du monde.
Et il l'est, et avec cette galerie des cinq continents, nous avons la chance de découvrir, à côté des œuvres et du dialogue qui s'instaure, l'histoire même de ces œuvres. Et sur plusieurs, nous avons exactement le cheminement que vous venez de décrire, c'est-à-dire le musée du Louvre, l'ancien musée du Louvre, même au XIXe siècle, accueillait des œuvres venues d'autres continents avant qu'il ne soit décidé de les retirer. C'est-à-dire que au moment où d'autres musées sont créés, notamment le musée de l'Homme, eh bien, on décide que ces œuvres n'ont plus la légitimité pour être accueillies au milieu de cet univers artistique très occidental, et qu'elles changent de statut. Alors c'est très intéressant de voir ces va-et-vient avant qu'elles puissent revenir pour certaines au musée du Louvre. Mais il y a toute une période de notre histoire où elles sont retirées.
Mais oui, tout à fait. Alors il faut bien se rendre compte qu'en effet, au musée du Louvre a eu des configurations différentes. Les objets sont venus, sont repartis, ont été regroupés dans des départements, ont été ensuite dispersés. C'est une histoire de va-et-vient, d'aller et de retour. Il y a eu des musées qui étaient des musées d'ailleurs, comme on pourrait les appeler dans l'histoire du Louvre. Et ensuite, ces musées, à l'intérieur du grand musée qui était le Louvre, ont disparu. D'ailleurs, il y a l'actuel directeur du musée de Bayonne, Barthélémy Glama, qui travaillait au Louvre à l'époque où je donnais mes conférences, a écrit sur cette question-là, d'ailleurs, une thèse absolument magnifique qu'il vient de soutenir. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être un des examinateurs de sa thèse qu'il a présentée à l'Université de Columbia. Eh bien, il montre en effet ces circonstances contingentes parfois qui ont fait qu'il y a eu, par exemple, un musée algérien après la conquête par la France de l'Algérie, d'Alger d'abord en 1830 et ensuite de l'Algérie, eh bien, qui a disparu par la suite. Et puis, voilà, maintenant, un musée assyrien. Lorsque la grande vogue a été de retrouver en quelque sorte l'archéologie biblique.
Oui, parce qu'il y a tous ces musées qui ont existé au Louvre, oui, avec cette particularité, mais Souleymane Bachir-Diagne, j'ai envie de dire qu'au moment où le président Jacques Chirac décide de mettre au Louvre des œuvres des autres continents, il y a toujours quelque chose géographiquement à l'écart. C'est-à-dire que ces œuvres ne sont pas en contact avec les autres. C'est le fonctionnement d'un musée. Le musée de Louvre fonctionne par département. Et donc, il y avait encore cette idée-là que chacun reste chez soi.
Oui, mais voilà, vous avez tout à fait raison. D'abord, cette histoire de la louvrisation est très ancienne. En prenant la décision qui a été la sienne au début, en 2000, le président Jacques Chirac, au fond, donner raison aux avant-gardes littéraires et artistiques qui, au début du XXe siècle déjà, demandaient la louvrisation de ces objets qui étaient regroupés sous le label art nègre. On les appelait des arts nègres ou bien des fétiches. On connaît ce magnifique poème de Guillaume Apollinaire où il parle de ces fétiches d'Océanie quand il dit à la fin du poème Zone qu'il a envie d'aller chez lui et de retrouver ces fétiches d'Océanie. Eh bien, ces objets qu'on appelait des fétiches, justement Apollinaire, estimait que leur véritable place devait être au Louvre. Ce qu'il avait en vue, c'était la signification que ces objets avaient portée, la manière dont ces objets ont, en quelque sorte, revivifié la conscience artistique universelle et ont donc transformé le cours, le mouvement des arts dans le monde, et en Europe en particulier. Et donc, il a fallu attendre le président Jacques Chirac, pour que ces décisions soient prises et que les objets se retrouvent au Louvre. Mais vous avez raison, parce que lorsqu'ils se retrouvaient au pavillon des sessions, on pouvait considérer qu'au fond, ils y étaient comme dans un ghetto, que le Louvre classique, on va l'appeler ainsi, que le Louvre européen, le Louvre qui est la représentation d'un universalisme européen et exclusivement européen, restait en l'état et avait cette petite aile marginale du côté de la Porte des Lions, pour qui connaît la configuration du musée, où effectivement se retrouvaient des objets venus d'ailleurs. Et donc la transformation qui a eu lieu récemment de ce pavillon des sessions en galerie des cinq continents, c'est une transformation double. D'abord, c'est une transformation qui consiste à reconfigurer architecturalement les choses en faisant en sorte que le lieu même qui était le pavillon des sessions ne soit pas aussi excentré par rapport au musée du Louvre. La Porte des Lions est devenue une vraie porte. On peut entrer par la Porte des Lions l'ancien pavillon des sessions fait vraiment partie du corps du musée du Louvre. Et il y a surtout le fait qu'il ne s'agit plus seulement d'un lieu où se retrouvent entre eux les arts qu'on appelait primitifs, qu'on a appelés ensuite premiers. Ces arts ont accueilli des objets, des œuvres d'art venues de l'Europe. Et donc, ce qui était simplement le lieu des objets venus des quatre autres continents est devenu véritablement une représentation des cultures et des arts des cinq continents, donc du monde.
Avec ici tant et tant de lectures possibles de la galerie des cinq continents au Louvre. Parce qu'il y a la visite presque du Badou, une visite juste esthétique pour le plaisir des yeux, et puis une visite beaucoup plus intellectuelle où l'on peut réfléchir à la portée de la mise en relation d'œuvres venues de temps et de civilisations différentes. Mais Souleymane Bachir-Diagne, vous l'avez un peu rappelé en évoquant Apollinaire, c'est aussi l'origine d'un musée, vivant de nom que nous évoquions, avait comme ambition de mettre à disposition des artistes, c'est ça aussi un musée, ses œuvres pour qu'elles puissent être copiées et puis pour apprendre. Donc, dès lors, il était important d'avoir toutes ces œuvres et la logique d'un Apollinaire, c'est d'avoir des œuvres venues d'Afrique notamment, parce que, vous l'avez bien dit, ce sont des œuvres inspirantes.
Oui, nous avons là un des moulages, une reproduction en bronze, d'un masque Fang, c'est-à-dire du Gabon, qui a été, je crois, la première pièce à être vue, touchée, palpée, regardée sous tous ses angles par Picasso de Rhin-Évelaminck et qui a été discuté, même par Mac Jacob en parle dans une chronique, toute une nuit, ils ont tous regardé ce masque, etc. Et finalement, il appartenait, je crois, à Évelaminck, et de Rhin lui a demandé la permission de le faire refondre en bronze, et le fondeur Rudier en a fait une réplique que nous avons la chance d'avoir à notre musée des arts océaniens et africains de Paris. Les œuvres arrivaient par le plus grand des hasards, par des voyageurs, par des explorateurs qui ramenaient des pièces, qui quelquefois les vendaient dans des petits magasins, et celui-là provenait d'un petit magasin de la rue de Rennes très connu. Et ce n'était pas forcément des chefs-d'œuvre, donc c'était un masque plat, qui est tout de même d'un assez pur style, ce n'est pas de l'art, ce qu'on peut appeler de l'art colonial, pas du tout.
Nous étions en 1966, la date est signifiante, hein, c'est au moment du Festival mondial des arts nègres, que Pierre Mauzet, alors que c'est un sculpteur spécialiste, et c'est ça qui est aussi très intéressant, dans le style art colonial, et qui s'exprime à propos de ces œuvres-là, parce que, Souleymane, ma chère Diane, mettre en relation les œuvres venues d'ailleurs, et là je me mets en position auto-centrée, comme c'est pas permis, non mais avec nos œuvres d'art, c'est quelque chose qui est classique dans la démarche de comparaison, mais seulement pour, bah, par exemple, expliquer le cubisme, pour comprendre les Demoiselles d'Avignon. Ça, c'était une démarche qui était classique. Mmh. On allait rarement au-delà, en fait.
Oui, parce que jusque-là, en fait, il s'agissait simplement de mesurer l'inspiration plus ou moins importante que les artistes avaient trouvée auprès de tel ou tel objet venu d'Afrique ou d'Océanie ou d'ailleurs. D'ailleurs, il est intéressant sur l'élément que nous avons écouté, de voir qu'en effet, il y avait des pièces très très précises. Donc ce fameux masque Fang qui a circulé entre Évelaminck, de Rhin et Picasso, c'était important d'en parler. Comme il est important, par exemple, de parler de la fameuse statue dédiée au dieu Gou, cette sculpture métallique absolument extraordinaire qui a été l'objet d'une grande fascination chez Apollinaire et chez Picasso. D'ailleurs, on dit qu'ils ont été ensemble, tous les deux, voir cette sculpture au musée du Trocadéro. On n'en est pas sûr, évidemment, mais ceci est assez significatif parce qu'on sait que cet objet-là a eu un rôle très important dans les sculptures métalliques de Picasso, lesquelles sculptures, d'ailleurs, étaient dédiées par Picasso à son ami Apollinaire. Donc, cet aspect des choses, effectivement, était classique. Mais ça n'allait pas au-delà. Continuer à les faire dialoguer et donner avec le dialogue la manière de mettre ensemble ces objets dans un seul espace, qui est maintenant la Galerie des Cinq Continents. C'est une manière de continuer cette œuvre pédagogique des musées. Vous l'avez rappelé parce que les musées avaient cette fonction-là. Les artistes devaient venir s'inspirer des créations anciennes, classiques. C'est le sens même du classique, ce qui permet de s'instruire comme dans une classe. Eh bien, il y a aussi un aspect pédagogique du musée qui est de nous enseigner, de nous permettre de voir l'humanité dans son ensemble à l'œuvre. Les œuvres qui sont l'œuvre de l'humanité en général. Comment un même élan à la fois vital et créateur humain a déposé ici ou là, dans des cultures éloignées dans l'espace et dans le temps, des œuvres qui disent ce que l'homme fut de grand et de sublime, pour reprendre les paroles du poète. Eh bien, voilà ce qui va au-delà d'une simple énumération des influences que tel ou tel objet aurait eues. Évidemment, parler des Demoiselles d'Avignon, c'est important. Montrer comment les masques que Picasso affectionnait, dont il était d'ailleurs lui-même collectionneur, ont trouvé un moment. À un moment donné, ont trouvé leur chemin dans la création de cet immense artiste. C'était important.
Grand, sublime, le poète, c'est Aragon ?
Oui.
Ah, merci. J'ai bon. Dites-nous, Souleymane Bachir-Diane, il y a un paradoxe dans cette démarche que j'adore. Au moment d'entrer dans la Galerie des Cinq Continents, au Musée du Louvre à Paris, la première œuvre que l'on voit est la même œuvre qui se trouve en couverture de votre ouvrage « Les Universels du Louvre ». C'est une statue qui paraît totalement mutique. Elle n'est pas dans le dialogue et pourtant elle est porteuse de tant et tant de choses. C'est une statue que nous connaissons bien, c'est celle de l'île de Pâques. Alors celle-là, nous la connaissons particulièrement parce que, je le dis, elle est au musée du Louvre, elle est en couverture de votre ouvrage et elle est en écho à toutes ces statues de l'île de Pâques qui sont porteuses d'une forme de mystère. Pourquoi avoir mis en avant cette statue-là ?
Alors, je suis heureux de voir que le musée a pris cette décision et a fait en sorte que, au moment où on entre dans cette galerie des cinq continents, en accédant au musée par la porte des Lions, ce soit ce moai qui soit à l'accueil. Et d'une certaine manière, vous l'avez rappelé, il est sur la couverture de mon livre. Et je me suis mis moi-même sous la protection de ce moai quand j'ai commencé les conférences du musée du Louvre. Je suis tombé véritablement amoureux de cette statue. Et une tête massive avec ce front bombé qui fait le mystère du regard. On a l'impression que cette statue regarde en dedans. Et ensuite, effectivement, quand on voit cette tête massive, on ne peut pas ne pas évoquer les autres statues dont on sait qu'elles sont à l'île de Rapa Nui, que nous appelons aussi île de Pâques. Et donc, ces statues qui se trouvent là sont en quelque sorte en communion avec cette statue-ci. Et comme si cette statue représentait au musée du Louvre, cette création venue du plus lointain Pacifique et ces statues qui ont fait rêver tant de monde. Je parle beaucoup dans mon livre d'ailleurs de l'exploration de Pierre Loti. Pierre Loti qui a fait le voyage et qui a subi la fascination de ces statues d'ancêtres. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? On ne le sait pas trop, mais elle est effectivement magnifique, cette tête, et c'était un excellent choix, je crois,
ah oui,
pour la Galerie des Cinq Continents, de la mettre là.
On n'en sait pas trop, effectivement, mais la recherche fait que nous en connaissons de plus en plus sur cette culture, sachant, Souleyman Bachir-Diane, qu'il y a aussi une volonté que l'on pourrait dire coloniale d'effacer la signification de ces œuvres-là. C'est-à-dire que tous ces arts venus d'Amérique, d'Afrique et d'Océanie ont été apportés en Europe, adaptés au goût européen pour du commerce, mais on leur a ôté le nom des artistes, on leur a ôté leur signification première, on leur a ôté une force de dialogue. Elles en ont récupéré une autre par leur histoire même. Mais l'idée de mettre en avant ces œuvres-là, donc venues des quatre continents et celles de l'Europe qui étaient déjà au Louvre, c'est aussi redonner une lecture, une parole, une voix à toutes ces œuvres.
Tout à fait. Alors la manière dont précisément maintenant ces œuvres sont configurées dans une galerie des cinq continents, c'est aussi une manière, comme vous l'avez dit, de leur rendre leur voix. Vous savez, il y a ce magnifique film, ce film somptueux de Mati Diop sur les objets qui ont été restitués au Bénin. Il n'y a pas si longtemps, c'est 26 objets restitués au Bénin. Et on est frappé par le fait que ces objets ont été silencieux pendant la durée de leur exil et que l'un d'eux, dont la voix tout à fait profonde hante ceux qui ont vu le film, cette statue, cette sculpture retrouve la voix au moment de rentrer au Bénin. Eh bien, vous avez raison, lorsque ces objets ont été, pour beaucoup d'entre eux, arrachés par la violence coloniale à leur terroir d'origine, c'est comme s'ils avaient perdu leur propre parole, leur propre voix, et entrés dans des configurations qui étaient des configurations que leur imposait un regard extérieur, un regard qui leur donnait une signification, laquelle signification leur était appliquée de l'extérieur. Mettre ces objets dans la configuration où ils se trouvent aujourd'hui, dans la galerie des cinq continents, c'est d'une certaine manière reconnaître les multiples langues que ces objets ont parlé. Ces objets ont parlé la langue de leur terroir d'origine, la langue des cosmologies où ils sont nés. Ils ont également parlé la langue dans laquelle ils ont échangé avec les artistes qui s'en sont inspirés. Ils ont parlé donc la langue de Picasso. Ils ont parlé avec Picasso. Et toutes ces langues, ils les ont acquises, ces objets. Ces langues font toutes partie de leur identité. L'ancien directeur général de l'UNESCO, Amadou Mokhtar Mbow, le Sénégalais Amadou Mokhtar Mbow, mort il y a peu, plus que centenaire, avait dit une fois cette parole magnifique en rappelant que ces objets, il parlait des restitutions, c'était en 1978, et il disait qu'en effet, il y avait des objets qui devaient absolument retourner là où ils ont été créés, parce qu'à ces lieux-là, ils manquaient. Mais il disait aussi qu'il fallait tenir compte du fait que les œuvres qui ont été ainsi arrachées parfois par la violence coloniale à leur terroir d'origine ont poussé des racines dans ce qu'il appelait leur sol d'emprunt. Et c'était très important de parler de racines. Quand on pousse des racines quelque part, c'est qu'on est aussi de cet endroit-là. Le fait d'affirmer que ces objets sont d'ici et d'ailleurs, que ces objets ont une force en eux qui a fait qu'ils ont su également développer une autre existence, une autre vie, une autre force de vie là où ils ont été exilés, c'était une manière de considérer que ces objets sont devenus nomades, qu'il est dans leur vocation de créer du lien, de faire de la relation, parce qu'ils habitent pleinement et sur leur terroir d'origine évidemment, et sur les territoires où ils ont été accueillis. Et là encore, la configuration que l'on voit aujourd'hui à la galerie des cinq continents permet de montrer cela, de montrer en quoi ces objets sont des objets mutants. Le mot mutant est un mot que j'utilise beaucoup en parlant de ces objets parce qu'il me semble contenir deux aspects importants. Mutants, ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes une force profonde de transformation. Ils ont su se transformer. Et mutants, c'est aussi le participe présent du verbe muter. Ça veut dire qu'ils sont une force de mutation. Ils ont produit cette force de mutation et ont imprimé leur marque à la conscience artistique du XXe siècle et au-delà. Et ceci est très important, il faut en tenir compte. Et une disposition comme celle de la Galerie des Cinq Continents permet de tenir compte de cela, de dire à la fois, de rappeler à la fois qu'il y a une histoire violente qui explique la présence de ces objets, mais que cette histoire violente aujourd'hui peut également donner à voir dans la paix du dialogue des cultures ce qu'il en est de notre humanité commune.
Dans la Galerie des Cinq Continents au Musée du Louvre à Paris, des objets mutants, il y en a et de manière très évidente quand il s'agit de vases venus de Chine, par exemple, qui ont été, et ça c'était la mode au XVIIIe siècle, ornés d'orfèvrerie et on rajoutait des choses dessus. Le vase est toujours là, mais ce n'est plus exactement le vase. Et on peut décliner ces exemples à l'infini. Dans la galerie, on voit tant et tant d'œuvres d'art venues d'Afrique et qui ont été débarrassés de leur gangue votive pour presque devenir des objets polis et patinés pour plaire au goût européen. C'est cette mutation-là qu'il faut étudier. Elle fait partie du dialogue.
Cette mutation fait partie du dialogue. Et en effet, il est dans la nature du musée lui-même, au fond, de transformer les objets. Le musée, l'ouvrisation des objets est déjà une transformation, une mutation. Par exemple, effectivement, il y a un certain nombre d'objets qui se retrouvent dans les musées et qui ont perdu parfois des plumes qui étaient là. On a enlevé les plumes ou alors les plumes sont tombées à cause de tous les transferts qui se sont effectués. C'est comme d'ailleurs, pour prendre un exemple dans la statuaire gréco-romaine, le fait, on le sait, que les statues étaient peintes, avaient des couleurs. Et ces statues ont perdu leur couleur. Et quand on voit la beauté du marbre aujourd'hui, on se dit presque heureusement que les couleurs n'y sont plus. Et d'une certaine façon, c'est ce que le musée accomplit. Cette transformation des objets, leur muséification d'une certaine manière, c'est de dire qu'ils parlent désormais le langage des musées, qui n'écrase pas leur langue, les différentes langues que ces objets ont parlé, mais qui est en effet une manière pour eux d'être, de s'offrir au regard tout à fait nouvelle. Malraux disait fort justement que l'art commence lorsque les dieux sont partis des objets. On peut estimer qu'avec toutes ces fioritures, les plumes, les couleurs, etc., c'est d'une certaine manière le départ des dieux qui s'effectue pour laisser l'objet parler par sa puissance plastique.
Mais voilà, ils ne sont plus chargés par les esprits ou les divinités, ils sont chargés par leur puissance artistique, esthétique. Et dans ce dialogue, bien sûr, vous l'avez évoqué, Souleymane Bachir-Diane, il y a la question des restitutions.
Il ne faut pas soulever le nageoire.
Non, le nageoire.
Pas la tête.
Paul, il faut tenir.
Statue du roi Béhanzin. Description. Cette statue représente Béhanzin, roi du temps romain entre 1890 et 1894. Les armoiries de Béhanzin comportaient un requin en souvenir des paroles qu'il prononça pour indiquer à son peuple son intention de faire la guerre aux Français. Beau éléphantant à Péluibro. Le requin s'est mis en colère et l'océan s'est troublé.
C'est un extrait du film de Mati Diop, Dahomey, avec ce film que vous avez évoqué. Nous avons un documentaire et en même temps un message porté autour de l'idée même de restitution. Ici, la question de la restitution ne peut se saisir dans son ensemble avec un mot qui s'appliquerait à l'ensemble des œuvres, parce que ce n'est que du cas par cas. Dans le cas ici de ces œuvres du Bénin, il fallait les rendre parce que le vol était manifeste et on est extrêmement documenté sur ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a la question de ces racines qui ont poussé depuis, vous l'avez évoqué. Quelle est votre position, vous, Souleymane Bachir-Diane, sur l'idée qu'il faut restituer des œuvres, ou plutôt, pour porter un dialogue, envoyer d'autres œuvres?
Il faut restituer des œuvres, en effet, et de ce point de vue-là, vous savez, j'ai adopté la position qui était ma manière de comprendre le propos d'Amadou Mokhtar Mbow dont j'ai parlé tout à l'heure. Amadou Mokhtar Mbow disait qu'il y avait des œuvres qu'il fallait absolument rendre. Ces 26 pièces qui ont été rendues au Bénin étaient de ces œuvres-là. Et il est heureux que Mati Diop ait eu le réflexe de faire un film au moment de ces restitutions. Et donc, elle a fait vraiment le film des restitutions. On sait, en effet, que ces 26 œuvres qui ont été restituées au Bénin provenaient du sac du palais de Béhanzin, le dernier roi du Danromé. Et donc, c'était tout à fait documenté. Ces œuvres avaient été emportées comme butin de guerre. De la même manière, d'ailleurs, que au Benin City, c'est-à-dire le Bénin, le royaume du Bénin, qui en réalité, comme son nom ne l'indique pas, se trouvait au Nigeria. Le Nigeria, là encore, expédition britannique cette fois-ci, pillage, sac et destruction du palais de Loba de l'époque. Et ensuite, les pièces qu'on a appelées les bronzes du Bénin ont été emportées par ces soldats britanniques et se sont retrouvées dans de nombreux musées en Europe, en Amérique, un peu partout. Les musées chaque musée voulait avoir ces bronzes du Bénin. Là aussi, c'est parfaitement documenté. Et aujourd'hui, la Commission nationale du patrimoine nigérian négocie avec différents musées en disant, par exemple, ceux-là, vous nous les rendez, ceux-là, vous les gardez, ceux-là, vous considérez que c'est un prêt indéfini, et c'est une démarche tout à fait intelligente, c'est une démarche de négociation, qui n'est pas dans le tout restitution. Cette idée qu'au fond, il faut que tous les objets culturels, les biens culturels, retournent à leur terroir d'origine. Donc chacun chez soi pour les représentants des différentes cultures humaines. Ça, c'est la projection de nos identitarismes actuels sur une question qui est une question délicate et une question qui demande beaucoup de doigté, un certain sens de la nuance et un certain sens de la négociation. Parce qu'il est important aussi, et c'est ça la démarche de la commission nigériane et de l'OBA actuel, le descendant des rois de Benin City, de dire qu'il est important aussi que leur culture soit représentée dans les musées universels. Et j'ai vu personnellement récemment à Vienne, au musée, l'ancien musée d'ethnographie qui s'appelle maintenant le musée du monde, Weltmuseum de Vienne, des vidéos où l'actuel Oba du Bénin, de Benin City, disait exactement ce que je viens de dire là. C'est-à-dire qu'il est important aussi d'être présent, de marquer une présence africaine dans des lieux qui sont des lieux du commun, pour reprendre une expression de Patrick Chamoiseau, dans ce qu'on pourrait appeler des villes-monde. Il est important que des musées universels se retrouvent aussi dans le sud, que dans le futur, que des musées soient construits dans ce qu'on appelle le sud global et que ces musées-là accueillent aussi des objets venus des 5 continents. Pour l'instant, dans les musées universels, dont la plupart se trouvent, pratiquement tous, qui tous pratiquement se trouvent dans le nord, il est important aussi de marquer la présence des 5 continents et de penser la question des restitutions de cette manière-là dans la négociation, en se souvenant que l'espace colonial, si on ne parle que de la violence coloniale, l'espace colonial, ce n'était pas simplement cet espace binaire où il y avait d'un côté les colonisés, de l'autre côté les colonisateurs. C'était également un espace d'échange, de transactions de toutes sortes. Donc les objets ont circulé, des transactions ont eu lieu, des négociations ont eu lieu, des achats, des ventes, des dons ont eu lieu. Et donc ceci donne toute son importance à la question de la provenance des objets. Les provenances, la provenance des objets doit faire l'objet d'enquêtes scientifiques bien menées. Et c'est dans un cadre comme celui-là d'ailleurs que la France et l'Allemagne se sont entendues pour mettre en place un fonds franco-allemand pour financer des recherches de provenance en demandant que les chercheurs viennent à la fois de France, d'Allemagne et d'Afrique. Je le sais d'autant plus que ce conseil scientifique de ce fonds, j'en suis le président, mes collègues m'ont porté à la présidence de ce conseil scientifique.
C'est vrai, vous avez raison, Souleymane Bachardian, quand on visite un musée, ces musées occidentaux, ces musées universels, il y a toujours une section consacrée aux arts de l'Afrique, aux arts de l'Océanie, dans la démarche du musée du Louvre. Ça qui est intéressant avec la Galerie des 5 continents, c'est que ces arts sont mélangés avec les arts européens, mais pourquoi pas dans les grands musées d'Afrique, à Kinshasa ou ailleurs, se dire, bah tiens, là c'est la salle des peintures françaises du XVIIIe siècle, ce serait totalement légitime. Reste dans la volonté de mettre de l'art venu d'Afrique, par exemple, dans des musées universels, la nécessité de la médiation, de nous les rendre compréhensibles. Et ça, c'est la démarche aussi des scientifiques et c'est toute la démarche des musées. Vous avez évoqué le Nigeria. Si on s'arrête un peu sur le Nigeria, dans la Galerie des 5 continents, il y a une œuvre venue du Nigeria, une sculpture en terre cuite. Alors, l'objet est exceptionnel en soi de manière esthétique, mais son histoire et sa signification enrichit encore le plaisir qu'on a de découvrir cette œuvre.
Absolument, c'est un objet magnifique. Il y a deux terres cuites, si je me souviens bien, deux terracotta, comme on les appelle aussi, dans la galerie des cinq continents. Et la finesse de ces sculptures indique toute la valeur de cette technique de la terre cuite précisément. Et ceci est important parce que ces objets en terre cuite qui viennent de la culture dite Nok, dont on découvre peu à peu ce qu'elle était et dont on mesure peu à peu toute l'étendue qui peut-être déborde les frontières du Nigeria actuel pour couvrir finalement quasiment la totalité de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, cette culture Nok, dont ces terres cuites sont des représentantes, était très importante, était très ancienne. Et donc l'ancienneté de ces pièces fait leur grande valeur et leur caractère esthétique également. La sophistication de ces pièces est également une chose très très importante qui fait que ce sont de magnifiques pièces. Et le Nigeria a convenu avec le musée du Louvre que ces objets étaient chez eux, dans cette galerie des cinq continents. Voilà tout un ensemble de significations qui se projettent sur ces terres cuites et il est important que ceux qui vont visiter la galerie des cinq continents se rendent compte de toutes ces significations qui sont inscrites dans l'objet. Voilà un cas, par exemple, où le musée indique la provenance de l'objet en question, explique pourquoi cet objet reste ici et ne retourne pas au Nigeria, en indiquant qu'il s'agit bien d'un accord avec la Commission nationale du patrimoine nigérian. Et donc, celui qui vient voir ces objets-là peut goûter d'autant mieux le plaisir esthétique qui est le sien, que cet objet est en dialogue avec d'autres objets des différents continents, que cet objet indique sa propre provenance et les raisons pour lesquelles il se trouve là où il se trouve, et par ailleurs manifeste cette puissance plastique extraordinaire.
Ah oui, c'est magnifique. Et puis, vous parliez de l'ancienneté. C'est vrai que nous sommes plusieurs siècles avant notre ère. Donc, nous avons quelque chose ici qui, ne serait-ce que par l'ancienneté déjà, crée une émotion. Nous ajustons l'esthétique et ensuite l'histoire même de l'œuvre. Et avec cette œuvre venue du Nigeria, le Nigeria d'aujourd'hui, on a quelque chose de très puissant.
Et oui, et pour revenir au poète dont nous parlions, voilà ce que signifie que ces objets nous disent toujours ce que l'homme fut de grand et de sublime.
C'est toujours un petit clin d'œil à Aragon avec malgré tout, Souleymane Bachidiane. Nous sommes sur France Culture, le cours de l'histoire. Vous publiez Les Universels du Louvre chez Albin Michel. Il y a donc au Musée du Louvre à Paris la Galerie des Cinq Continents. Mais pour se rendre compte du chemin parcouru, de la réflexion et de l'éducation, l'éducation du regard, l'éducation aussi de la pensée, petit retour en arrière pour saisir combien il fut un temps où le dialogue était impossible.
L'Office du tourisme à Aix-en-Provence abrite en ce moment un ensemble étrange et souvent fascinant. Ce qui frappera le visiteur, c'est moins peut-être l'intrinsèque beauté de ces volumes que leur caractère magique. L'Afrique ignore en effet le dilettantisme des sensations plastiques, l'art pour l'art, le gratuit. Tout comme nos lointains ancêtres des cavernes, piéger symboliquement le bison en en confiant le contour aux parois de la grotte, l'homme de la jungle taille dans l'ébène ou martèle dans le bronze de véritables serviteurs. En rendant visite à cette exposition, plus d'une fois, vous éprouverez l'impression de marcher à la frontière du chaos, dans cette zone dangereuse où tous les éléments se trouvent encore mêlés, la nuit et le jour, la vie et la mort, l'ange et la bête. Il y a là l'émouvante présence d'une vérité supérieure, celle des poètes, quand exaltés par leur mission, ils en viennent à ressembler aux dieux.
Nous étions en 1959 pour la présentation d'une exposition sur l'art nègre. Ce n'est pas tant l'utilisation d'art nègre qui peut poser problème, puisque on pourrait penser que ça s'inscrit dans l'idée de Léopold Sédar Senghor d'affirmer la négritude. Je pense que ce n'était pas le cas ici, dans cette lecture, Souleymane Bachidiane, que nous pouvons avoir de la manière de représenter ou d'exposer ses œuvres. 1959, on peut entendre ça quand, au même moment, d'autres pensent autre chose. Le Musée de l'Homme, dans ces années-là, est en réflexion aussi sur comment tisser des liens avec d'autres cultures. En fait, c'est une démarche sur le long terme. Ce que vous réalisez aujourd'hui, que ce soit dans le livre ou ce qui est réalisé au Musée du Louvre, c'est le fruit d'une longue histoire. Ce n'est pas une trouvaille par un claquement de doigts. C'est une longue construction.
Absolument, c'est une longue construction. Et ce propos-là est un propos ancien qui entre dans les profondeurs de l'histoire. En écoutant cet élément, je repensais à la manière dont Picasso a rendu compte à Malraux de d'une visite qu'il a effectuée au musée du Trocadéro, qui n'était pas encore le musée de l'homme. Et en parlant justement de cette impression d'avoir affaire à un mystère, à quelque chose de magique, je crois qu'il prononce le mot de magique d'ailleurs, et en disant à Malraux qu'il a eu le sentiment, en sortant du musée, qu'il lui fallait presque effectuer une séance d'exorcisme, qu'il lui fallait exorciser ce qui lui était arrivé. Et il conclut son rapport à Malraux en disant « Je crois bien que c'est ce jour-là que sont arrivées les demoiselles d'Avignon ». Donc il fait allusion au fait que les visages de ces demoiselles d'Avignon sont devenus des masques africains et ibériens. Eh bien, il y a cet aspect-là qui est, on le voit, déjà ancien. Mais se rappeler en effet que ce rapport qu'on pouvait avoir à cet art nègre, est assez ancien. Le magnifique livre de Benoît de l'Étoile, Le goût des autres, le rappelle. Les conceptions, par exemple, strictement esthétiques de ces objets, les conceptions qui consistent à loger la magie dans les objets eux-mêmes, en disant que c'est le langage des objets qui est un langage magique et pas simplement, d'un point de vue ethnographique, le rôle que tel ou tel masque a joué dans telle ou telle cérémonie. Une fois que vous avez dit cela, vous n'avez pas tout dit de la présence magique de l'objet, de la présence, c'est quasiment spirituelle. C'est Senghor qui parle du fait que la création même de ces objets est une forme de spiritualisation. Il s'agit d'élever, dit-il, la matière vers la lumière de l'esprit. Eh bien, cette manière de porter, d'élever la matière vers la lumière de l'esprit est inscrite dans l'objet lui-même. Donc, pas simplement la fonction que l'objet aura jouée dans telle ou telle cérémonie, à tel ou tel endroit. Là, c'est documenté par les ethnologues, c'est leur métier de faire cela. Mais quand l'objet se retrouve dans un musée, il faut laisser toute sa chance précisément à la manifestation de cette spiritualisation de cette matière, de la matière, à celui qui vient rendre visite à ces objets. Et c'est ainsi que la galerie des cinq continents fonctionne très bien. Vous savez, les cartels sont un petit peu loin des objets eux-mêmes, comme si nous étions invités à d'abord les voir, à d'abord les regarder et ensuite simplement à se pencher sur le cartel qui va nous dire ce que ces objets sont, leur origine, leur carte d'identité pour ainsi dire, après qu'ils nous auront parlé par leur langage de leur forme.
J'étais particulièrement sensible, Souleymane Bachirdiane, à ce mode d'exposition puisque bien souvent notre cerveau nous oblige à lire tout de suite quand nous voyons du texte en oubliant même de regarder l'œuvre. Sauf qu'avec ce mode d'exposition, nous pouvons tourner autour de l'œuvre, la regarder, et ensuite s'interroger et aller rechercher de quoi il s'agit.
Absolument. Alors justement, tourner autour me fait penser encore une fois à ce philosophe de l'art africain qu'est Léopold Sédar Senghor. On en revient pratiquement toujours à lui. C'est lui qui dit que les objets sont des objets rythmés. La puissance plastique tient au rythme de ces objets. Quand il parle de rythme, il ne parle pas simplement du tam-tam. Il parle véritablement des objets, des sculptures elles-mêmes qui sont rythmées. Et il dit que le meilleur moyen de les goûter, c'est de les goûter en étant soi-même dans une attitude rythmique, comme si on dansait avec l'objet. Et au fond, tourner autour de l'objet, cette circumambulation autour de l'objet est une forme, une manifestation de cette attitude rythmique.
Masque, ô masque, masque noir, masque rouge, vous, masques blancs et noirs, masques aux quatre points d'où souffle l'esprit, je vous salue dans le silence. Vous distillez cet air d'éternité où je respire l'air de mes pères. Masque au visage sans masque, dépouillé de toute fossette, comme de toute ride. Voici que meurt l'Afrique des empires, c'est l'agonie d'une princesse pitoyable. Et aussi l'Europe à qui nous sommes liés par le nombril. fixez vos yeux immuables sur vos enfants que l'on commande, qui donnent leur vie, comme le pauvre, son dernier vêtement. Que nous répondions présents à la renaissance du monde, ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche, car qui apprendrait le rythme au monde des fins, des machines et des canons? Qui pousserait le cri de joie pour réveiller morts et orphelins à l'aurore? Dites, qui rendrait la mémoire de vie à l'homme aux espoirs éventrés? Ils nous disent les hommes du coton, du café, de l'huile. Ils nous disent les hommes de la mort. Nous sommes les hommes de la danse dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur.
La prière au masque de Léopold Sédar Senghor, lue par Jean-Marie Drotte, avec ici l'évocation de quelque chose qui a pu plaire au public occidental au moment où ces œuvres arrivaient, cette part de magie, de mystère, et d'ailleurs effacer toutes les origines précises de ces œuvres, ça renforçait le mystère. Souleymane Bachirdian, mais dans les Universels du Louvre, vous soulignez combien des œuvres bien occidentales et bien connues sont elles aussi porteuses de mystère comme une magie. Je pense à cette femme dont le regard nous suit, quelquefois, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans la pièce.
Mais oui, exactement. Le fameux sourire de la Joconde et la figure même du caractère énigmatique des œuvres. Qu'est-ce qui fait la fascination qu'exerce cette Joconde? Alors, il y a des circonstances qui ont fait que cette œuvre est devenue aujourd'hui l'emblème même de la peinture. Ça n'a pas toujours été le cas. Je crois que d'ailleurs, ce qui est arrivé souvent à cette œuvre, d'avoir été volée, etc., a participé à sa légende et à son mystère. Mais ce mystère est aussi inscrit dans ce fameux sourire. On n'avait pas l'habitude que les peintures se mettent à sourire. Et puis voilà, ce sourire qui nous poursuit, qui est en effet tout à fait fascinant. Alors justement... Comparer cela ou l'opposer à ce que vient de dire Senghor des masques. Les masques impassibles, sans fossettes, dit-il, ni rides, dans le poème qui vient d'être lu si magnifiquement. Eh bien, voilà deux lectures différentes du visage humain. L'expression de l'impassibilité des masques, comme si ces masques avaient les yeux fermés sur l'éternité. Et puis, ce sourire évanescent de la Joconde, dont on se plaît à penser qu'il a quelque chose même d'ironique quand on fait la visite. Une de mes grandes chances quand j'ai donné les conférences du Louvre, c'est que le Louvre m'était ouvert le mardi, qui est le jour de fermeture habituel. Et donc, j'ai eu la chance de me retrouver en tête-à-tête avec la Joconde. Et effectivement, la fascination, même quand on a comme ça tout le loisir de la contempler, est la même que lorsqu'on découvre cette Joconde pour la première fois. Et voilà, une œuvre... Alors, occidentale par excellence, puisqu'elle est l'œuvre qui est l'emblème même de la peinture occidentale, et qui au fond garde le même mystère, le même caractère impénétrable que une œuvre africaine dont on ne sait pas comment l'approcher au début et dont on se dit qu'il faut peut-être l'apprivoiser. Être désarçonné est une bonne chose quand on entre dans un musée. Dire voilà une œuvre que je ne comprends pas. Mais c'est une excellente chose parce que ça permet de poser la question qu'est-ce que l'art? Et au fond, si on sort d'un musée avec cette double impression d'avoir vu l'humanité dans son ensemble à l'œuvre, dans des œuvres différentes, venant d'horizons, de cultures, de langues, de temporalités différentes, et en même temps, se dire qu'on ne sait plus trop finalement comment il faut comprendre l'art, eh bien, si on a ces deux impressions-là, je crois que le musée aura rempli sa fonction pédagogique.
Je vais vous dire, Souleymane Bachirdian, je pense que désormais, pour aller visiter le musée du Louvre à Paris, au lieu d'entrer par la pyramide, il faut rentrer par la Porte des Lions. Parce que, en traversant la Galerie des Cinq Continents, on a comme une éducation du regard et de la réflexion sur cette mise en dialogue de ces œuvres venues du monde entier et de tous les temps. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire pour un propos universel. Les Universels du Louvre, c'est publié chez Albin Michel, coédition avec le Louvre. Merci vivement à vous.
Merci infiniment.
Avec, pour terminer, les derniers mots à Léopold Sédar Senghor.
Pour les classiques européens, vous le savez, l'œuvre d'art est partant la beauté, c'est l'imitation de la nature. Pour parler du masque nègre, ce qui fait sa beauté, ce n'est pas qu'il imite la tête d'un homme ou d'une femme, c'est qu'il est fait d'un ensemble de rythmes qui provoquent en nous la joie ou la tristesse, l'hilarité ou la colère, d'un ensemble de rythmes qui nous ébranlent à la racine de notre être.
Être ébranlé. Et c'est ici l'évocation de ce plaisir universel. Donc petit tour au Louvre et lecture aussi les Universels de Souleyman Bachirdian. Mais pour le moment, dans le cours de l'histoire, voici le fil histoire. Le fil histoire, vous le savez, vous vous abonnez au fil Culture G sur les réseaux sociaux et vous retrouvez des décryptages tous les jours et notamment donc en histoire. Et pour l'histoire, c'est le médiéviste Emanuele Arioli.
Pensez-vous que les débats sur le patriarcat soient nouveaux ? Pas du tout. Au XVe siècle, on s'écharpe déjà à coups de pamphlets et de romans. Tout part du plus grand best-seller français du Moyen-Âge, le Roman de la Rose. Plus de 250 manuscrits conservés de nos jours. Un jeune homme rêve qu'il pénètre dans un jardin et tombe amoureux d'un bouton de rose, image de la femme désirée. Ce roman, commencé vers 1230 par Guillaume de Loris, est une encyclopédie de l'amour courtois, pleine de raffinement. Mais 40 ans plus tard, Jean de Main en écrit la suite. Et tout change. Les femmes y sont dépeintes comme volages, rusées, trompeuses, ces mordants, cyniques et misogynes. Un succès immense, mais aussi un scandale. C'est là qu'entre en scène la première écrivaine de métier en Europe, Christine de Pisan. Née à Venise en 1364, elle rejoint enfant la cour de France lorsque son père est appelé comme médecin et astrologue, puis veuve à 25 ans, avec 3 enfants à nourrir, elle parvient à vivre de sa plume. En 1401, elle écrit au grand lettré du royaume pour dénoncer les injures que le roman de la Rose fait à tout son sexe. D'autres intellectuels répondent, des secrétaires du roi et des théologiens, comme Jean de Gerson. Les lettres et les traités échangés entre tous ces penseurs de l'époque sont ensuite recopiés ensemble. Ils sont conservés dans 8 manuscrits. C'est la première grande querelle littéraire en France, la querelle du roman de la Rose, qui durera jusqu'à 1405. Mais Christine ne s'arrête pas là. Entre 1404 et 1407, elle écrit alors son livre allégorique « La cité des dames ». Elle s'y met en scène, se demandant pourquoi la misogynie est partout. Et là, 3 dames couronnées, raison, droiture et justice, lui apparaissent pour l'aider à construire, truelle à la main, une cité symbolique destinée à défendre les femmes. Il faut d'abord déblayer le terrain de toutes les théories misogynes, puis bâtir, pierre après pierre, cette cité peuplée de femmes célèbres à imiter, femmes puissantes, femmes de science, enchanteresses, poétesses, mais aussi sainte, et même des Amazones. Et à la tête de cette cité, la femme la plus sainte, la Vierge Marie, bien sûr. Une histoire des femmes, écrite par une femme, 5 siècles avant Simone de Beauvoir. Et Christine termine son livre en le dédiant à toutes les femmes, de jadis, d'aujourd'hui et de demain. « Voici notre cité bâtie et parachevée, écrit-elle, ce sera pour vous toutes, non seulement un refuge, mais un rempart pour vous défendre des attaques de vos ennemis. Un bastion contre le patriarcat, un manifeste féministe avant que ces mots n'existent. Mais les idées sont là. Et aujourd'hui, d'autres femmes écrivent encore avec la même encre la révolte contre le patriarcat. Leurs œuvres sont les tours nouvelles de cette cité des dames, des remparts d'idées protégeant une liberté conquise à travers les siècles. Alors, n'oublie pas Christine, qui écrivait au XVe siècle « Mesdames, soyez vigilantes pour vous défendre ».
Merci vivement, Emanuele Arioli. Le fil histoire, c'est à retrouver partout, et notamment sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holweck, à la technique Mineta Diawara, émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire, trouvé à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.